La guerre des Gaules, écrit par Aulus Hirtius, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. Troisième et dernière partie du livre 8. La lecture d'aujourd'hui est extraite du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 29 juin 2009. 38. Cependant, César laisse son questeur Marcus Antonius avec 15 cohortes chez les Bélovaques pour que les Belges ne puissent pas une fois encore former des projets de révolte. Il va lui-même chez les autres peuples, se fait livrer de nouveaux otages, ramène des idées saines dans les esprits qui tous étaient en proie à la peur. Arrivé chez les Carnutes, dont César a raconté dans le précédent commentaire comment la guerre avait pris naissance dans leur cité, voyant que leurs alarmes étaient particulièrement vives parce qu'ils avaient conscience de la gravité de leur faute, afin d'en libérer plus vite l'ensemble de la population, il demande qu'on lui livre, pour le châtier, Gutuater, principal, coupable et auteur responsable de la guerre. Bien que le personnage ne se fiât plus même à ses propres concitoyens, néanmoins, chacun s'appliquant à le rechercher, on l'amène promptement au camp. César, malgré sa naturelle clémence, est contraint de le livrer au supplice par les soldats accourus en foule. Il mettait à son compte tous les dangers courus, tous les maux soufferts au cours de la guerre. Il fallut qu'il fût d'abord frappé de verges jusqu'à perdre connaissance, avant que la hache l'achevât. 39. César était chez les Carnutes quand il reçoit coup sur coup plusieurs lettres de Caninius l'informant de ce qui avait été fait concernant Drapès et Lucterios et de la résistance à laquelle s'obstinaient les habitants d'Uxellodunum. Bien que leur petit nombre lui parût méprisable, il estimait cependant qu'il fallait châtier sévèrement leur opiniâtreté, afin que l'ensemble des Gaulois n'en vînt pas à s'imaginer que ce qui leur avait manqué pour tenir tête aux Romains, ce n'était pas la force, mais la constance, et pour éviter que, se réglant sur cet exemple, les autres cités ne cherchassent à se rendre libres en profitant de positions avantageuses. Car toute la Gaule, il ne l'ignorait pas, savait qu'il ne lui restait plus qu'un été à passer dans sa province, et s'il pouvait tenir pendant ce temps-là, il n'aurait ensuite plus rien à craindre. Il laissa donc son légat Quintus Calenus à la tête de 2 légions, avec ordre de le suivre à étape normale. Quant à lui, avec toute la cavalerie, il va rejoindre Caninius à marche forcée. 40. Son arrivée à Uxellodunum surprit tout le monde. Quand il vit que les travaux de fortification entouraient complètement la place, il jugea qu'à aucun prix on ne pouvait lever le siège. Et comme des déserteurs lui avaient appris que les assiégés avaient d'abondantes provisions de blé, il voulut essayer de les priver d'eau. Une rivière coulait au milieu d'une vallée profonde qui entourait presque complètement la montagne sur laquelle était juché Uxellodunum. Détourner la rivière, le terrain ne s'y prêtait pas. Elle coulait, en effet, au pied de la montagne dans la partie la plus basse, si bien qu'en aucun endroit on ne pouvait creuser des fossés de dérivation. Mais les assiégés n'y avaient accès que par une descente difficile et abrupte. Pour peu que les nôtres en défendissent l'abord, ils ne pouvaient ni approcher de la rivière, ni remonter pour rentrer la pente raide, sans s'exposer aux coups et risquer la mort. S'étant rendu compte de ces difficultés que rencontrait l'ennemi, César posta des archers et des frondeurs, plaça même de l'artillerie sur certains points en face des pentes les plus aisées, et ainsi il empêchait les assiégés d'aller puiser l'eau de la rivière. 41. Alors ils se mirent à venir tous chercher de l'eau en un seul endroit, au pied même du mur de la ville, où jaillissait une source abondante. Du côté que laissait libre, sur une longueur d'environ 300 pieds, le circuit de la rivière. Chacun souhaitait qu'il fût possible d'interdire aux assiégés l'accès de cette source. Mais César seul en voyait le moyen. Il entreprit de faire, face à la source, pousser des mantelets le long de la pente et construire un terrassement, au prix d'un dur travail et de continuelles escarmouches. Les assiégés, en effet, descendant au pas de course de leur position, qui dominait la nôtre, combattent de loin sans avoir rien à craindre et blessent un grand nombre de nos hommes qui s'obstinent à avancer. Pourtant, cela n'empêche pas nos soldats de faire progresser les mantelets et, à force de fatigue et de travaux, de vaincre les difficultés du terrain. En même temps, ils creusent des conduits souterrains dans la direction des filets d'eau et de la source où ceux-ci aboutissaient. Ce genre de travail pouvait être accompli sans aucun danger et sans que l'ennemi le soupçonnât. On construit un terrassement de 60 pieds de haut. On y installe une tour de 10 étages qui, sans doute, n'atteignait pas la hauteur des murs. Il n'était pas d'ouvrage qui permît d'obtenir ce résultat, mais qui, du moins, dominait l'endroit où naissait la source. Du haut de cette tour, de l'artillerie lançait des projectiles sur le point par où on l'abordait, et les assiégés ne pouvaient venir chercher de l'eau sans risquer leur vie, si bien que non seulement le bétail et les bêtes de somme, mais encore la nombreuse population de la ville souffrait de la soif. 42. Une aussi grave menace alarme les assiégés qui, remplissant des tonneaux avec du suif, de la poix et de minces lattes de bois, les font rouler en flammes sur nos ouvrages. Dans le même temps, ils engagent un combat des plus vifs afin que les Romains, occupés à une lutte dangereuse, ne puissent songer à éteindre le feu. Un violent incendie éclate brusquement au milieu de nos ouvrages. En effet, tout ce qui avait été lancé sur la pente, étant arrêté par les mantelets et par la terrasse, mettait le feu à ces obstacles mêmes. Cependant, nos soldats, malgré les difficultés que leur créait un genre de combat si périlleux et le désavantage de la position, faisaient face à tout avec le plus grand courage. L'action, en effet, se déroulait sur une hauteur, à la vue de notre armée, et des deux côtés on poussait de grands cris. Aussi, chacun s'exposait-il aux traits des ennemis et aux flammes avec autant plus d'audace qu'il avait plus de réputation, voyant là un moyen que sa valeur fût mieux connue et mieux attestée. 43. César, voyant qu'un grand nombre de ses hommes étaient blessés, ordonne aux cohortes de monter de tous les côtés à l'assaut de la montagne et de pousser partout des clameurs pour faire croire qu'elles sont en train d'occuper les remparts. Ainsi fait-on, et les assiégés, fort alarmés, car ils ne savaient que supposer sur ce qui se passait ailleurs, rappellent les soldats qui assaillaient nos ouvrages et les dispersent sur la muraille. Ainsi, le combat prend fin et nos hommes ont vite fait ou d'éteindre l'incendie ou de faire la part du feu. La résistance des assiégés se prolongeait, opiniâtre, et bien qu'un grand nombre d'entre eux fussent morts de soif, ils ne cédaient pas. À la fin, les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par nos canaux souterrains et détournés de leur cours. Alors la source, qui ne tarissait jamais, fut brusquement à sec, et les assiégés se sentirent du coup si irrémédiablement perdus qu'ils virent là l'effet non de l'industrie humaine, mais de la volonté divine. Aussi, cédant à la nécessité, ils se rendirent. 44. César savait que sa bonté était connue de tous et il n'avait pas à craindre qu'on expliquât par la cruauté de son caractère un acte de rigueur. Comme, d'autre part, il ne voyait pas l'achèvement de ses desseins, si d'autres, sur divers points de la Gaule, se lançaient dans de semblables entreprises, il estima qu'il fallait les en détourner par un châtiment exemplaire. En conséquence, il fit couper les mains à tous ceux qui avaient porté les armes et leur accorda la vie sauve pour qu'on sût mieux comment il punissait les rebelles. Drapès, qui, je l'ai dit, avait été fait prisonnier par Caninius, soit qu'il ne put supporter l'humiliation d'être dans les fers, soit qu'il redouta les tourments d'un cruel supplice, s'abstint pendant quelques jours de nourriture et mourut de faim. Dans le même temps, Lucterios, dont j'ai rapporté qu'il avait pu s'enfuir de la bataille, était venu se mettre entre les mains de l'arverne Epasnactos. Il changeait en effet souvent de résidence et ne se confiait pas longtemps au même hôte, car sachant combien César devait le haïr, il estimait dangereux tous ses jours de quelque durée. L'arverne Epasnactos, qui était un grand ami du peuple romain, sans aucune hésitation le fit charger de chaînes et l'amena à César. 45. Cependant, Labienus, chez les Trévires, livre un combat de cavalerie heureux. Il leur tue beaucoup de monde, ainsi qu'aux Germains, qui ne refusaient à aucun peuple de secours contre les Romains, prend vivant leur chef, et parmi eux, l'Éduain Suros, homme dont le courage était réputé et la naissance illustre, et qui, seul parmi les Éduains, n'avait pas encore déposé les armes. 46. À cette nouvelle, César, qui voyait que partout en Gaule la situation lui était favorable et jugeait que la Gaule proprement dite avait été, par les campagnes des années précédentes, complètement vaincue et soumise, qui, d'autre part, n'était jamais allé lui-même en Aquitaine, mais y avait seulement remporté, grâce à Publius Crassus, une victoire partielle, se mit en route à la tête de deux légions pour cette partie de la Gaule, avec l'intention d'y employer la fin de la saison. Cette expédition, comme les autres, fut menée rapidement et avec bonheur. Toutes les cités d'Aquitaine lui envoyèrent des députés et lui donnèrent des otages. Après cela, il partit pour Narbonne avec une escorte de cavaliers, laissant à ses légats le soin de mettre l'armée en quartier d'hiver. Il établit 4 légions chez les Belges, sous les ordres des légats Marcus Antonius, Caius Trebonius et Publius Vatinius. 2 furent conduites chez les Éduains, qu'il savait posséder l'influence la plus considérable sur toute la Gaule. 2 autres, chez les Turons, à la frontière des Carnutes, devaient maintenir dans l'obéissance toute cette région jusqu'à l'océan. Les 2 dernières furent placées chez les Lémovis, non loin des Arvernes, afin qu'aucune partie de la Gaule ne fût vide de troupes. Il ne resta que quelques jours dans la province. Il parcourut rapidement tous les centres d'audience, jugea les conflits politiques, récompensa les services rendus. Il lui était en effet très facile de se rendre compte des sentiments de chacun envers Rome, pendant le soulèvement général de la Gaule, auquel la fidélité et les secours de ladite province lui avaient permis de tenir tête. Quand il eut achevé, il revint auprès de ses légions en Belgique et hiverna à Nemetosena. 47. Là, il apprend que Commios, l'Atrébate, a livré bataille à sa cavalerie. Antoine était arrivé dans ses quartiers d'hiver et les Atrébates étaient tranquilles. Mais Commios, depuis la blessure dont j'ai parlé plus haut, était sans cesse à la disposition de ses concitoyens pour toute espèce de trouble. prêt à fournir à ceux qui voulaient la guerre un agitateur et un chef. Tandis que sa cité obéissait aux Romains, il se livrait avec sa cavalerie à des actes de brigandage dont il vivait, lui et sa bande, infestant les routes et interceptant nombre de convois destinés aux quartiers d'hiver des Romains. 48. Antoine avait sous ses ordres, comme préfet de la cavalerie, Caius Volusenus Quadratus, qui devait passer l'hiver avec lui. Il l'envoie à la poursuite des cavaliers ennemis. Volusenus, outre qu'il était un homme d'un rare courage, détestait Commius. Aussi obéit-il avec joie. Ayant organisé des embuscades, il attaquait fréquemment ses cavaliers, et toujours avec succès. À la fin, au cours d'un engagement plus vif que les autres, Volusenus, emporté par le désir de s'emparer de la personne de Commius, s'était acharné à le poursuivre avec un petit groupe, et lui, fuyant à toute bride, avait entraîné Volusenus à bonne distance, quand soudain Commius, qui le haïssait, fait appel à l'honneur de ses compagnons, leur demande de le secourir, de ne pas laisser sans vengeance les blessures qu'il doit à la fourberie de cet homme, et, tournant bride, il se sépare des autres, audacieusement, pour se précipiter sur le préfet. Tous ses cavaliers l'imitent, font faire demi-tour au nôtre, qui n'était pas en force, et les poursuivent. Commius éperonne furieusement son cheval, le pousse contre celui de Quadratus, et, se jetant sur son ennemi, la lance en avant, avec une grande violence, il lui transperce la cuisse. Quand ils voient leur préfet touché, les nôtres n'hésitent pas. Ils s'arrêtent de fuir et, tournant leurs chevaux contre l'ennemi, le repoussent. Alors un grand nombre d'ennemis, bousculés par la violence de notre charge, sont blessés, et les uns sont foulés aux pieds des chevaux dans la poursuite, tandis que les autres sont faits prisonniers. Leur chef, grâce à la rapidité de sa monture, évita ce malheur. Ainsi, ce fut une victoire, mais le préfet, grièvement atteint par Commius et paraissant en danger de mort, fut ramené au camp. Cependant, Commius, soit parce qu'il avait satisfait sa rancune, soit parce qu'il avait perdu la plupart des siens, envoie des députés à Antoine et promet, sous caution d'otage, d'avoir tel séjour qu'il prescrira, d'exécuter ce qu'il commandera. Il ne demande qu'une chose, c'est qu'on ménage sa frayeur en lui évitant de paraître devant un Romain. Antoine, jugeant que sa demande était inspirée par une crainte légitime, y fit droit et reçut ses otages. Je sais que César a composé un commentaire pour chaque année. Je n'ai pas cru devoir faire de même, parce que l'année suivante, celle du consulat de Lucius Paulus et de Caius Marcellus n'offre aucune opération importante en Gaule. Toutefois, pour ne pas laisser ignorer où furent pendant ce temps César et son armée, j'ai résolu d'écrire quelques pages que je joindrai à ce commentaire. 49. César, en hivernant en Belgique, n'avait d'autre but que de maintenir les cités dans notre alliance, d'éviter de donner à aucune d'elles espoir ou prétexte de guerre. Rien, en effet, ne lui paraissait moins souhaitable que de se voir contraint à une guerre au moment de sa sortie de charge et de laisser derrière lui, lorsqu'il devrait emmener son armée, une guerre où toute la Gaule, n'ayant rien à craindre pour l'instant, se jetterait volontiers. Aussi, en traitant les cités avec honneur, en récompensant très largement les principaux citoyens, en évitant d'imposer aucune charge nouvelle, il maintint aisément la paix dans la Gaule, que tant de défaites avaient épuisée et à qui il rendait l'obéissance plus douce. 50. Il partit contre son habitude l'hiver fini et en forçant les étapes pour l'Italie, afin de parler aux municipes et aux colonies à qui il avait recommandé son questeur Marcus Antonius, candidat au sacerdoce. Il l'appuyait, en effet, de tout son crédit, parce qu'il était heureux de servir un ami intime qu'il venait d'autoriser à partir en avant pour faire acte de candidat, mais aussi parce qu'il désirait vivement combattre les intrigues d'une minorité puissante qui voulait, en faisant échouer Antoine, ruiner le crédit de César à sa sortie de charge. Bien qu'il eût appris en chemin, avant d'atteindre l'Italie, qu'Antoine avait été nommé augure, il estima cependant qu'il n'avait pas moins de raison de visiter les municipes et les colonies, afin de les remercier de leurs votes nombreux et empressés pour Antoine, et aussi pour recommander sa propre candidature aux élections de l'année suivante. Ses adversaires, en effet, triomphaient insolemment du succès de Lucius Lentulus et de Caius Marcellus, qui, nommé consul, se proposait de dépouiller César de toute charge, de toute dignité, et de l'échec de Servius Galba, qui, bien qu'il fût beaucoup plus populaire et eût obtenu beaucoup plus de voix, avait été frustré du consulat parce qu'il était l'ami de César et avait été ses légat. 51. L'arrivée de César fut accueillie par tous les municipes et colonies avec des témoignages incroyables de respect et d'affection. C'était en effet la première fois qu'il y venait depuis le grand soulèvement général de la Gaule. On ne négligeait rien de tout ce qui pouvait être imaginé pour décorer les portes, les chemins, tous les endroits par où César devait passer. La population entière, avec les enfants, se portait à sa rencontre. On immolait partout des victimes, les places et les temples où l'on avait dressé des tables étaient pris d'assaut. On pouvait goûter à l'avance les joies d'un triomphe impatiemment attendu. Telle était la magnificence déployée par les riches et l'enthousiasme que montraient les pauvres. 52. Après avoir parcouru toutes les parties de la Gaule cisalpine, César revint avec la plus grande promptitude auprès de ses troupes à Nemetosena. Ayant envoyé aux légions dans tous les quartiers divers l'ordre de faire mouvement vers le territoire des Trévires, il y alla lui-même et y passa son armée en revue. Il donna à Titus Labienus le commandement de la Cisalpine afin que sa candidature au consulat fût bien soutenue dans ce pays. Quant à lui, il ne se déplaçait qu'autant qu'il jugeait utile pour l'hygiène des troupes de changer de cantonnement. Des bruits nombreux lui parvenaient touchant les intrigues de ses ennemis auprès de Labienus, et il était informé que, sous l'inspiration de quelques-uns, on cherchait à provoquer une intervention du Sénat pour le dépouiller d'une partie de ses troupes. Néanmoins, on ne put rien lui faire croire sur Labienus, ni rien lui faire entreprendre contre l'autorité du Sénat. Il pensait, en effet, que si les sénateurs votaient librement, il obtiendrait aisément justice. Laïus Curion, tribun de la plèbe, qui s'était fait le défenseur de César et de sa dignité menacée, avait plusieurs fois pris devant le Sénat l'engagement suivant. Si la puissance militaire de César inquiétait quelqu'un, et puisque, d'autre part, le pouvoir absolu et les armements de Pompée éveillaient chez les citoyens des craintes qui n'étaient pas médiocres, il proposait que l'un et l'autre désarmât et licenciât ses troupes. Du coup, la République recouvrerait la liberté et l'indépendance. Il ne se borna point à cet engagement, mais il prit même l'initiative de provoquer un vote du Sénat. Les consuls et les amis de Pompée s'y opposèrent, et sur cette manœuvre dilatoire, l'assemblée se sépara. 53. On avait là un important témoignage des sentiments du Sénat tout entier et qui corroborait la leçon d'un incident antérieur. Marcus Marcellus, l'année précédente, cherchant à abattre César, avait, en violation d'une loi de Pompée et de Crassus, porté à l'ordre du jour du Sénat, avant le temps, la question des provinces du proconsul. Comme, après discussion, il mettait sa proposition aux voix, Marcellus, qui attendait de ses attaques contre César la satisfaction de toutes ses ambitions politiques, avait vu le Sénat se ranger en masse à l'avis contraire. Mais ces échecs ne décourageaient pas les ennemis de César. Il les avertissait seulement d'avoir à trouver des moyens de pression plus énergiques, grâce auxquels ils pourraient forcer le Sénat d'approuver ce qu'ils étaient seuls à vouloir. 54. Ensuite, un sénatus consulte décide que Cnaeus Pompée et Caius César devront envoyer chacun une légion pour la guerre des Parthes. Mais il est bien clair qu'on en prend deux au même. En effet, Cnaeus Pompée donna, comme provenant de son contingent, la première légion qu'il avait envoyée à César après l'avoir levée dans la province de César lui-même. Celui-ci, pourtant, bien que les intentions de ses adversaires ne fissent aucun doute, renvoya la légion à Pompée et donna pour son compte, en exécution du Senatus Consulte, la 15e, qui était dans la Gaule citérieure. À sa place, il envoie en Italie la 13e, pour tenir garnison dans les postes que celle-là évacuait. Il assigne, d'autre part, des quartiers divers à son armée. Laius Trebonius est placé en Belgique avec 4 légions. Laius Fabius est envoyé avec les mêmes effectifs chez les Éduens. Il estimait, en effet, que le meilleur moyen d'assurer la tranquillité de la Gaule, c'était de contenir par la présence des troupes les Belges, qui étaient les plus braves, et les Éduens, qui avaient le plus d'influence. Il partit ensuite pour l'Italie. 55. À son arrivée, il apprend que les 2 légions qu'il avait renvoyées et qui, d'après le Senatus Consulte, étaient destinées à la guerre des Parthes, le consul Caius Marcellus les a remises à Pompée et qu'on les a gardées en Italie. Après cela, personne ne pouvait plus douter de ce qui se tramait contre César. Celui-ci, pourtant résolu de tout souffrir, tant qu'il lui resterait quelque espoir d'obtenir une solution légale du conflit, au lieu d'avoir recours aux armes. Il s'efforça. C'est ainsi que se termine ce long récit de la guerre des Gaules, vu du côté romain. Il est bien entendu dommage que l'on n'ait jamais pu avoir le point de vue de Vercingétorix, et on s'aperçoit souvent de la manière subjective avec laquelle César relate tous les faits, entre guillemets. Néanmoins, comme c'est la seule version qui subsiste de nos jours, il faut faire avec. Elle donne quand même une explication détaillée du long processus qui a mené à la conquête totale de la Gaule. Ce récit culmine à la dernière bataille décisive d'Alésia. C'est cette défaite cruciale des Gaulois qui fait que je vous parle aujourd'hui dans une langue dérivée du latin et non pas du celte. Je n'ai jamais d'ailleurs bien compris comment la grande culture celtique de mes ancêtres ait pu complètement disparaître en laissant si peu de traces. J'espère que cette longue narration historique aura également suscité de ce genre de conjectures chez vous aussi. Je tiens à remercier tous ceux ou celles qui m'auront écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie certes de votre attention soutenue. En espérant que vous avez bien aimé cette lecture, je vous souhaite à tous d'autres nombreuses heures d'écoute sur littératureaudio.com. Portez-vous bien.